RCF. Comment le souffle de la vie, dans sa continuité comme dans sa fragilité, peut-il venir animer la peinture ? Comment la douleur du corps ou la souffrance de l'âme peuvent-elles atteindre un paroxysme et éclater dans un cri, clamant ainsi son caractère injustifiable, inacceptable ? On a parlé de faute, de châtiment, mais que dire si nous sommes sourds à ce cri qui n'est coupable de rien ? Comment l'innocence peut-elle être blessée, abîmée, meurtrie, et par quelle voix peut-elle se faire entendre ? La peinture, comme la poésie, peuvent nous rendre témoins de cette violence injustifiable et souvent réduite au silence. Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui dans Dialogue Jérôme Tello, écrivain, professeur de littérature à l'Université de Lyon. Vous avez écrit, Jérôme Tello, sur la peinture, sur la poésie, et en particulier, votre œuvre se situe dans une intime résonance avec celle du poète Yves Bonnefoy. La peinture et le cri, de Botticelli à Francis Bacon, c'est le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions L'Atelier Contemporain, François-Marie Desrolles, éditeur, en octobre 2021. Jérôme Tello, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Dialogue.
Je vous remercie.
Alors, vous nous proposez une méditation profonde avec une grande finesse d'analyse, une attention délicate aux œuvres. Vous savez les faire parler, vous savez former notre regard, c'est incroyable, c'est-à-dire que vous nous faites entrer dans ces œuvres et le lecteur les comprend, vous lui donnez le temps de se les approprier. Et vous ouvrez également à une profondeur philosophique sur l'histoire de la peinture. Jérôme Tello, comment est né ce livre ?
Il y a des causes, disons, au long cours et puis des causes circonstancielles. Une cause circonstancielle, c'est, puisque vous avez nommé mon maître Yves Bonnefoy, c'est le fait que celui-ci, il y a, disons, une quinzaine d'années, m'avait dit qu'il préparait préparer un essai sur la peinture et le cri. Il m'avait dit ça par mail et qu'il était chargé d'innombrables tâches et que cet essai lui venait sur le dos supplémentairement. Et bien sûr, ce sujet m'avait frappé. Je lui avais d'ailleurs glissé, au fil des mois suivants, quelques petites références comme ça qui me tombaient sous la main, qui pouvaient alimenter sa réflexion. Pour telle ou telle raison, Yves Bonnefoy n'a pas fait l'essai qu'il avait conçu l'idée de faire et il nous a quittés en 2016. Pendant toutes ces années-là, donc ce premier mail qu'il m'avait adressé, c'était peut-être 2005, admettons. Pendant toutes ces années-là, mais j'avais gardé en esprit qu'il devait faire cet essai. Et allant dans les musées d'Europe, quand je voyais un cri, j'y songeais, à vrai dire. Donc ça, c'est la vraie cause à la longue durée. Bonnefoy n'ayant pas fait cet essai, eh bien, il m'est venu l'idée de le faire et de d'ailleurs le lui dédier naturellement, enfin de le dédier à sa mémoire.
Alors pourquoi cette question originale, la peinture et le cri ?
Parce que dans l'intervalle, j'avais aussi eu l'occasion de réfléchir un peu sérieusement sur Sophocle, à qui j'ai consacré un livre. Et il y a dans Sophocle tant de larmes, tant de véhémentes douleurs, que plusieurs des héros sophocléens crient et trouent par leur cri la substance du texte poétique. C'est très frappant chez Ajax, mais c'est plus frappant encore chez Philoctète, qui est l'avant-dernière pièce de Sophocle. Et Philoctète m'avait donné à réfléchir sur ce que c'est que le cri. Alors je vais le dire tout de suite, ce que c'est que le cri. À mon sens, il faudrait distinguer déjà, ce que je n'ai pas assez fait dans l'introduction de ce livre, les différentes sortes de cris qu'il nous est donné de crier. Il y a le cri du premier-né, du tout nouveau-né, qui respire pour la première fois. Il y a le cri de sa mère en parturition. Il y a aussi des cris de joie, ça arrive tout de même. Il y a des cris de jouissance qui sont un peu différents. Et il y a aussi, bien sûr, les cris de souffrance, et disons victimaire. Et mon essai porte sur sur les cris victimaires, sur les cris sacrificiels. Il y a d'ailleurs d'autre part aussi les cris des animaux, en fait j'en mentionne un ou deux dans le livre, mais c'est un peu une autre question tout de même.
Et le cri, c'est l'expression d'une souffrance intense, enfin si intense qu'elle est insoutenable.
Voilà, c'est ça. Alors, je pense que le cri, c'est trois choses à la fois. Premièrement, c'est une manifestation de la vie. Et c'est une manifestation immédiate de la vie, en pour autant qu'elle souffre, effectivement, dans le cas présent. Mais il est très important de considérer que c'est une manifestation immédiate de la vie. C'est-à-dire que dans le cri, il n'y a pas de représentation de la souffrance. Il y a juste une expression pure, pure de représentation, pure d'idéalité, pure de conceptualité, sans intention. Le crieur crie et ce n'est pas autre chose que sa vie qui vient à la sonorisation dans ce cri même. Donc il faut bien avoir à l'esprit que le cri n'est pas autre chose que la vie qui s'y manifeste, d'une part. Mais d'autre part, puisqu'il s'agit d'un cri victimaire, d'une souffrance qui est, disons, provoquée par des persécuteurs, eh bien, le crieur proteste. C'est-à-dire que le cri est une manière de rébellion, ce serait trop dire, mais de plainte, et même de refus de la victime qui ne veut pas mourir. Ce caractère de protestation est très important parce que on peut repérer du coup dans le cri une manière de critique de la mise à mort sacrificielle dont la victime est victime, et celui qui s'empare, je veux dire l'herméneute, l'ami des peintres, l'ami des poètes, celui qui s'empare à son tour de cette question du cri, il est en quelque sorte l'héritier de la victime, pour autant que ce cri victimaire sert à critiquer l'ordre sacrificiel dont le martyr est persécuté. Vous voyez ? Donc cet aspect-là est extrêmement important. Il y a un troisième aspect du cri, je ne sais plus lequel c'est, mais on le retrouvera dans notre conversation.
Il y a sans doute quelqu'un aussi pour être témoin ou pour entendre ce cri.
Voilà,
oui.
C'est ça. Le bruit du cri, la sonorisation de la chair douloureuse dans le cri, c'est une sorte de, comment dirais-je, de trou dans la substance du monde, de contestation aussi de toute la verbalité qui fait de nous les êtres parlants que nous sommes. Le cri est inarticulé, inarticulable, il est pré-verbal, il n'est même pas verbal du tout à vrai dire, il est anté-verbal. Et ce faisant, il conteste, disjoint, en tout cas relativise sérieusement, tous nos mots. Tous nos mots qui sont, eux, articulés, eux, syntaxiques, eux, lexicalisés, de telle sorte qu'ils sont volontiers oubliés de ce cri que pourtant il nous faut entendre.
Et ça, c'est une expression profonde de notre vulnérabilité, de notre finitude. Et c'est ce qu'il y a sans doute de paradoxal aussi dans le point de départ de votre ouvrage, c'est-à-dire de comment la peinture peut-elle représenter le cri,
voilà.
Ce qui ne peut pas être entendu,
voilà.
Là, comment cela peut-il être peint,
voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la peinture est muette, nécessairement, de par le fait que c'est une image. Et Poussin, comme on le sait, dit quelque part dans sa correspondance « moi qui fais profession des choses muettes ». Il fait profession des choses muettes, c'est-à-dire qu'il fait profession des images, et les images ne se font pas entendre. Alors évidemment, c'est assez sommaire, la façon dont les peintres ont représenté le cri, ce n'est pas autre chose que, disons, une bouche largement ouverte, des traits de visage déchirés, un corps convulsif, que sais-je encore, des traits anguleux, qui sont rien d'autre que la figuration mimétique supposée de ce qui pourtant est au-delà ou en deçà de toute figuration. Donc les moyens de la peinture sont pauvres pour suggérer le cri. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, rares, très rares à vrai dire, sont dans l'histoire de la peinture les figurations de cri. Du moins avant le romantisme, en effet, on peut compter sur les doigts d'une main les quelques tableaux d'Europe qui représentent un cri. Si vous y songez, excusez-moi, vous alliez dire quelque chose, mais la figure sacrificielle la plus répandue de tous les musées d'Europe, c'est évidemment le Christ. Et nous savons que d'autre part, le Christ, il crie sur la croix. C'est même la dernière manifestation de sa vie terrestre. Mais il a beau crier, dans les tableaux de l'Europe, on ne le voit pas crier. La figuration du Christ n'est pas la figuration d'un homme criant, lors même que l'Évangile dit qu'il a crié. Et donc, rares, disais-je, et c'est vrai, sont les tableaux d'Europe qui figurent un cri.
Cette rareté est assez intéressante, il faut oui. La questionner, c'est votre travail.
Oui.
Vous évoquiez la crucifixion, et c'est ce premier tableau qui ouvre votre ouvrage avec cette œuvre d'Antonio Pollaiuolo.
Pollaiuolo, oui.
Oui, avec un cri, mais qui n'est pas celui du Christ, mais d'un larron et du mauvais larron.
Voilà, ce qui m'a touché dans ce tableau, c'est d'abord qu'on ne le connaît pas, puisqu'il a disparu dans les années 1940, et qu'on n'en connaît désormais plus qu'une reproduction en noir et blanc qui est reproduite dans le livre. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que à droite du tableau, c'est-à-dire à gauche du Christ, puisque nous sommes sur le Golgotha, le mauvais larron hurle d'une façon si effarante, qui déchire absolument toute la figure harmonieuse du tableau, qu'on se demande comment il se fait que tous ceux qui sont là autour de lui ne l'entendent manifestement pas. Ni même le Christ ne semble s'apercevoir qu'il y a là à côté de lui quelqu'un qui crie.
Dialogue, Sarah Brunel.
Jérôme Thélault, dans votre ouvrage « La peinture et le cri », vous formulez ainsi l'essentiel de votre recherche. Il n'est de représentation que sacrificielle, l'origine de la peinture gît dans la violence, toute image provient d'un cri. Alors il y a 9 chapitres avec une quinzaine de tableaux, peut-être un peu plus, qui sont évoqués. Toute image vient d'un cri, l'origine de la peinture se trouve dans la violence. Pourriez-vous expliquer le sens de cette affirmation ?
Oui, effectivement, parce que c'est l'affirmation lourde du livre. Ce livre est donc fait, comme vous l'avez dit, d'analyses successives de tableaux qui vont de Botticelli et même donc de Pollaiuolo jusqu'à presque nos jours. Mais il est porteur effectivement de la thèse que vous avez rappelée. Cette thèse, je tiens à le dire, est une hypothèse, c'est-à-dire que c'est un moyen heuristique pour essayer d'y voir plus clair et pour essayer de rendre compte des différents aspects des tableaux qui se présentent devant nous. Et une hypothèse, c'est ce qu'on garde tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Et si une autre hypothèse se présentait à nous, nous devrions, meilleure alors que celle que nous avons dite, eh bien nous devrions l'adopter.
C'est une belle hypothèse.
Voilà, oui. Pour le moment j'adopte mon hypothèse, c'est-à-dire que, non pas exactement moi, mais les tableaux dont je parle, portent en eux cette hypothèse même. Mon idée est que les grands tableaux de l'Europe, alors je parle du tableau de Poussin de 1628, du dernier tableau de Raphaël de 1530, des 4 extraordinaires panneaux de Botticelli, de 2 tableaux majeurs de Ribera, et puis après pour l'âge moderne, je parle de Munch naturellement, ainsi que de Francis Bacon et puis de Raymond Masson. Bon, et de temps en temps d'autres peintres aussi, de Guido Reni, etc. Et alors, il me semble que ces tableaux sont grands, en ceci qu'ils portent en eux la conscience de leur propre provenance. Ils sont grands parce qu'ils pensent, et ils pensent, oserais-je dire, philosophiquement. C'est-à-dire, penser philosophiquement, c'est penser de telle sorte que les présupposés de ce qu'on pense sont explicités, sont mis au jour. Et il m'apparaît que dans les lignes, dans les couleurs, non pas verbalement, non pas conceptuellement, mais dans les lignes, dans les couleurs, dans la composition, ces tableaux pensent, en effet, pensent philosophiquement, c'est-à-dire sont conscients de leur propre origine. Et qu'en effet, en l'occurrence, ce qu'ils donnent à comprendre à ceux qui veulent bien les regarder, c'est que cette origine, c'est la violence constitutive, la violence instauratrice. Je suis un grand lecteur, enfin un lecteur fidèle et même, peut-on dire, un disciple de l'œuvre de René Girard. Et c'est à René Girard que je dois, disons, autant qu'au peintre, naturellement, cette idée que l'origine de la culture gît dans le sacrifice, que l'origine du signe lui-même gît dans la violence instauratrice. Et il m'apparaît, à moi, que les peintres, ou du moins pas tant les peintres, les tableaux dont j'ai parlé dans ce livre, font eux-mêmes cette hypothèse que leur propre provenance est la violence à laquelle ils doivent d'être ce qu'ils sont.
Alors si on essaie de donner à nos auditeurs une application, on va dire, de cette hypothèse que vous donnez, donc d'une violence originaire à laquelle finalement qui se fait jour par cette brèche dans de quelques œuvres dans l'histoire de la peinture.
Oui.
Prenons l'exemple du massacre des innocents de Poussin. Oui. Pourriez-vous nous dire quelle est votre lecture de cette œuvre?
Je vous remercie de poser cette question parce que le massacre des innocents de Poussin est vraiment au cœur du livre comme étant peut-être au fond le tableau le plus important de cette affaire, en tout cas.
Alors c'est un enfant qui va être sacrifié.
C'est un enfant qui va être sacrifié, c'est le thème évangélique que l'on connaît. Il faut rappeler deux choses. D'abord que Poussin a fait deux massacres des innocents. Il y en a un qui est au Petit Palais à Paris, mais ce n'est pas de celui-là qu'on parle, c'est de l'autre qui est au musée de Chantilly. Alors, il a plusieurs caractères très étranges, ce tableau de Chantilly. D'abord, il est plutôt du début de la carrière de Poussin, lorsque celui-ci n'est pas tout à fait entré dans sa grande manière. C'est très important parce que on peut repérer aisément dans ce tableau aussi certains éléments caravagesques, ce qui, pour Poussin, est assez frappant. Bien. Alors, n'entre pas dans ce détail-là. J'ai décidé de dire que c'était le premier tableau moderne. Et il faut que nous nous entendions sur « moderne », ce que ce mot de « moderne » veut dire. Nous sommes en 1628, c'est-à-dire à peu près le moment de Shakespeare, qui a écrit Hamlet en 1600, c'est-à-dire à peu près le moment de Galilée, qui a montré que le géocentrisme était une illusion. Donc nous sommes bientôt dans le moment de Pascal, qui pourra dire que le silence éternel des espaces infinis l'effraie. Bref, nous sommes dans un moment d'inquiétude métaphysique liée aux transformations, justement, de l'astrophysique et d'ailleurs au déploiement de la science objectiviste. Poussin appartient, comme Caravage d'ailleurs, à ce moment de mutation totale des consciences où les certitudes antérieures de la foi et de l'ordre symbolique médiéval et renaissant sont dévaluées, sont inquiétées. C'est le premier tableau moderne au sens où la pièce de Shakespeare Hamlet est la première pièce moderne. En effet, ce qui se présente devant nous, c'est une mère qui essaie de retenir le bras d'un bourreau qui va ne pas faire attention à elle et qui va donc massacrer le bébé qui est là en bas du tableau. Et cet événement qui est absolument injustifiable.
C'est le plus injustiable
de tous les événements
violence.
Du monde, oui.
Oui.
Et oui. D'ailleurs de tout l'Évangile, ça a toujours été un passage entêtant de l'Évangile de savoir quelle était la nécessité de cet événement épouvantable du massacre des innocents. Cet événement est injustifiable, mais dans le tableau de Poussin, il est, donné pour insensé par le fait que rien au ciel ne vient, rédimer cette mère, ne vient consoler cette mère, ne vient absoudre ce tueur, ne vient sauver cet enfant. Poussin a délibérément composé son tableau en songeant et en s'opposant à celui de Guido Reni d'une quinzaine d'années plus tôt, dont on n'est pas sûr qu'il l'ait vu en réalité. Il n'a peut-être vu qu'une gravure d'interprétation, mais peu importe. Je reproduis le tableau de Guido Reni par opposition auquel Poussin peint le sien. Et alors, on voit très bien que chez Guido Reni, ce massacre a lieu naturellement. Il y a beaucoup de gens qui crient là aussi, mais ce massacre, il est comme rédimé par l'arrivée des anges au ciel, n'est-ce pas? Et aussi par la figure de Laurent au bas du tableau, qui viennent non pas sanctifier la scène, mais nous persuader qu'un sens surnaturaliste s'y greffe et même s'y précipite. Chez Poussin, rien de tel. Le ciel est vide. C'est un ciel noir, si l'on peut dire. Il est parfaitement bleu, mais ce bleu est du noir. C'est-à-dire que personne n'y veille au sens de la vie terrestre. Et même ce massacre n'aura pas de rédemption. Et du coup, c'est un tableau moderne en ce sens précis que c'est un tableau de la déréliction métaphysique. C'est un tableau, pourrait-on dire, de l'absence de justice surhumaine pour garantir les pauvres œuvres terrestres. Et du coup, on doit rapporter la manière de peindre de Poussin dans ce tableau au fait que se développe au même moment la science objectiviste, car en effet, il prend un point de vue sur la scène qui est très réaliste, très caravagesque, comme je disais tout à l'heure. Nulle transfiguration, nulle sublimation, nulle interprétation religieuse ou métaphysique de l'événement. Non, un regard objectiviste sur la chose même qui est obstinément injuste, qui est objectivement barbare et qui n'a nul salut à l'horizon. C'est un tableau moderne au sens du désespoir métaphysique moderne.
Oui, ce tableau dont vous venez de nous rendre compte, de sa modernité, nous place face à un cri sans réponse, une sorte d'isolement et de non-justification qui va, quand à vous lire, enfin dans les chapitres suivants, qui va être comme une trame de la modernité finalement des différents peintres la jalonner. Oui.
Tout à fait. Il est très frappant de voir deux choses alors. Autant jusqu'au romantisme, rares auront été les tableaux figurant un cri, autant à partir du romantisme, assez nombreux sont les peintres qui s'emparent du sujet du cri, et d'autre part, il se fait que beaucoup de ces peintres modernes qui s'emparent du sujet du cri font volontiers référence au tableau de Poussin.
RCF, Sarah Brunel.
Toute image n'est-elle pas comme toute institution fondée sur la violence ? Toute représentation n'est-elle pas, comme le dit Yves Bonnefoy, maçonnée sur un cri ? Ce sont des questions que vous posez, des questions essentielles hein, que nous découvrons dans votre livre, dans votre réflexion, Jérôme Tellot. Il y a donc dans le cri ce qui, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, ce qui n'est pas articulé, ce qui n'est peut-être pas verbalisable, quelque chose de l'excès. Je pensais à l'hypothèse formulée par Jean-Luc Marion de « dans le visible, de l'invu ». Est-ce qu'il n'y a pas dans la peinture quelque chose comme un inouï, quelque chose qui ne peut pas être entendu et peut-être pas figuré ? Enfin, qu'est-ce qui est ici pour vous au cœur de cette réflexion ? Qu'est-ce qui en découle ?
Je pense que ceux des peintres qui se sont coltinés à ce sujet du cri ont été anxieux de constater que quelque chose là leur échappait. C'est-à-dire que la peinture est toujours muette par nature, puisque c'est une image, mais par le jeu des compositions et des couleurs, elle peut hériter, disons, de la rhétorique pour faire entendre une leçon. Et comme l'a très bien dit Claudel, l'œil écoute, comme l'a dit Marc Fumaroli, l'école du silence, c'est-à-dire que les images ont beau être silencieuses, elles ont un contenu rhétorique que nous déchiffrons aisément. Mais le cri n'est justement pas rhétorique. Le cri est justement ce qui déroge à l'ordre du discours ou ce qui n'y parvient pas encore, de telle sorte que les peintres se sont sentis en quelque sorte provoqués par ce cri qu'ils ne peuvent pas intégrer ni aux couleurs et aux formes ni à la rhétorique. Et du coup, je crois qu'ils se sont inquiétés de savoir quelle était en quelque sorte la faute fondamentale de la peinture, dans cette inaptitude même qui est la sienne, à convenablement ouïr le cri inouï. Je crois qu'il y a une culpabilité ressentie par les peintres de ne pas bien savoir quoi faire de cet événement qu'ils sentent pourtant instaurateur de leurs propres images.
Alors vous faites référence à cette dimension sacrificielle, à cette représentation qui nous indique, qui nous donne à penser ce sacrifice. Vous évoquiez René Girard. On pourrait dire, enfin je ne sais pas, c'est une hypothèse, que le christianisme a mis fin à la logique du sacrifice, ou du moins une lecture sacrificielle pourrait être aujourd'hui discutée ou dépassée. Comment abordez-vous cette question, vous, de manière plus personnelle ?
Il me semble qu'en effet, le démantèlement des mythes traditionnels par le travail du christianisme dans l'histoire rend possible que la figuration du cri, qui était jusqu'au XVIIIe siècle inclus, à la fois très rare et largement proscrite, devienne au contraire de plus en plus fréquente. Si plus nombreux sont les peintres modernes qui peignent des cris qu'ils ne l'étaient à l'âge classique, c'est pour la raison que se décèle toujours davantage le fondement sacrificiel des institutions. Et ce fondement sacrificiel se décèle à proportion que quelque chose du christianisme pénètre notre civilisation. Donc il y a un mouvement dialectique comme ça.
Et la question que pose la modernité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi celle du sens, du caractère injustifiable ou inacceptable de la souffrance, par exemple, dans l'expérience de la solitude. Je pense au tableau de Munch sur le cri, c'est-à-dire, comme vous l'expliquez de façon très lumineuse, cette dimension, cet écart qui ne peut pas être colmaté entre la dimension sociale, cette violence sociale et l'intériorité ou l'exigence, on va dire, du moi. Cette violence qui sous-tend notre vie sociale. sociale. C'est aussi cela qui est en jeu.
Oui, c'est tout à fait ça qui est en jeu, mais vous avez raison de... Je me reconnais dans ce que vous dites. Maintenant, je voudrais donc rappeler que dans cette deuxième moitié du livre, disons, qui porte sur les peintres romantiques et modernes, je m'attelle surtout à analyser, en effet, le tableau de Munch, qui est très fameux, quelques tableaux de Francis Bacon, et puis une sculpture polychrome de Raymond Masson. Et que dans ces essais herméneutiques-là, je cherche à articuler... À l'origine de la peinture dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à cette instauration de l'institution par la violence, je cherche à articuler une promesse de la peinture, un avenir de celle-ci, c'est-à-dire une téléologie. Je cherche à articuler une téléologie à la généalogie dont nous avons parlé précédemment. Et il me semble que la peinture, comme Poussin l'a voulu, comme justement Raymond Masson, par exemple, la recommence, c'est un acte de confiance tout de même dans les moyens plastiques, dans les moyens colorés, dans les moyens de la ligne, non pas seulement pour macérer dans l'idée que l'image vient de la violence et vient du cri, mais aussi pour inventer à l'image un avenir pour l'humanité, conférer à l'image une possibilité, une réserve de sens, une promesse qu'elle pourrait tenir. Et cette promesse, elle a nom compassion. Les grands peintres comme Poussin, ou le grand sculpteur qui était peintre aussi d'ailleurs, Raymond Masson, sont ceux qui savent douer la peinture de sens, en ceci que celle-ci, la peinture, prend en charge la compassion pour la victime même, la victime du cri qu'il représente d'autre part. Donc il n'y a pas seulement une archéologie ou une généalogie de la peinture qui remonte à son fondement sacrificiel, il y a aussi une téléologie qui lui assigne pour utopie ou pour promesse de compatir au sort de la victime.
Et ce serait finalement ce fil conducteur philosophique de votre travail qu'on voit à l'œuvre dès les premières œuvres que vous analysez, on va dire dès la Renaissance, hein, nous parlions de Pollaiolo tout à l'heure, c'est-à-dire comment le peintre nous donne à entendre le cri de ce mauvais larron, finalement, en nous invitant, on imagine comment ses contemporains ont-ils pu le recevoir, mais à sortir de la logique sacrificielle.
Tout à fait. C'est cela même. C'est cette utopie que quelques peintres qui ont été hantés par l'origine violente se sont donnés, tout de même.
Cette utopie, cette générosité, on va dire, donc ça nous fait réfléchir aussi sur le sens même de la justice, peut-être tout autant humaine que ce que nous pourrions penser que peut-être une justice divine.
Tout à fait, et d'ailleurs ça nous permet de revenir au tableau de Poussin, aussi disons, dépris qu'il soit de théologie ou de mythologie ou de métaphysique, il n'en reste pas moins que le petit bébé qui est là massacré par le tueur, a les bras en croix en bas à gauche de l'image de Poussin et qui figure donc par anticipation le Christ sur la croix. Et d'ailleurs, le tueur avec son épée figure aussi celui qui jettera sa lance sur le flanc du Christ. Par conséquent, il y a comme, disons, un christianisme sans contenu, une manière de christianisme sans religion qui, initié par Poussin, a été ressaisi par plusieurs des peintres du romantisme et de l'âge moderne.
Et la peinture, dans toute cette histoire à la fois généalogique et qui s'oriente vers un but, mais une fin que nous ne connaissons pas, bien sûr, puisque la peinture, heureusement, est bien vivante, mais elle nous fait aussi réfléchir avec votre regard sur ce qu'est notre monde aussi, sur cette violence qui est sous-jacente et la menace de revenir à ce spectre sacrificiel finalement.
Oui, pour autant qu'on en soit sorti.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Oui. D'abord le mauvais larron, c'est nous, et ensuite le persécuteur, c'est nous.
Oui. Jérôme Thélot, je vous remercie infiniment pour cette réflexion, cette méditation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La peinture et le cri, une méditation passionnante, profonde et une belle découverte de la peinture aussi de Botticelli à Bacon. Vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter cette émission Dialogue en podcast sur sf.fr. Merci.